La brigade des stupes était bonne. À son retour, Didi trouva sur son bureau tout un dossier sur Hermès la raquette, alias Rastaman. Elle se dit qu'un blanc qui se faisait appeler Rastaman ne chômait sans doute pas, et Hermès ne la déçut pas. Son casier contenait une longue liste de petits délits, notamment cambriolage, vol et possession de substances illicites avec intention de la revendre. Heureusement pour Hermès, la justice pénale était débordée, ce qui avait permis à son avocat commis d'office de plaider l'abandon de la moitié des charges et d'obtenir un non-lieu pour l'autre moitié. Après quoi, Hermès avait su se faire oublier jusqu'à ce que les services de l'immigration lui remettent le grappin dessus. Au dire des voisins, Hermès s'était maqué avec Odie Solis, qui vivait déjà des allocations pour ses trois enfants nés de trois pères différents. 9 mois plus tard, grâce aux bons offices d'Hermès, elle en était à 4 enfants de 4 pères différents. Le nom d'Hermès figurait sur l'acte de naissance de Vivi Bellarassa Laraquette, née le 19 mars. Date à laquelle Odie avait demandé des allocations pour sa petite dernière, tandis qu'Hermès retournait à ce qu'il faisait le mieux, dealer du hache. La brigade des stupes pensait qu'Hermès employait les services d'une population immigrée de plus en plus importante à Boston pour pratiquer ses activités d'import-export. Il vendait sa marchandise par ballot entier, mais cela ne faisait toujours de lui que du menu fretin dans l'océan démonté du trafic de drogue, étant donné que, manifestement, il consommait aussi et avait peu de chances de prendre du galon dans un proche avenir. Ce qui leur faisait donc un petit trafiquant tué par balle sur le canapé, une mère assistée poignardée dans la cuisine et 4 enfants morts répartis dans 2 chambres. Didi reposa le dossier de la brigade des stupes et passa au reste des comptes rendus, notamment des entretiens avec les enseignants et directeurs d'école des enfants. « Aishi ou Rochelle » proposa-t-elle à Alex, qui avait pris le siège dans le coin et étudiait un croquis de la scène de crime comme s'il lisait dans le marc de café. Il reposa le croquis. « Aishi ». Didi lui tendit le rapport préliminaire sur Aishi Rivers, 17 ans, le fils aîné, abattu de 2 balles dans le couloir. Elle-même prit le rapport sur Rochelle Le Bryant, 11 ans, dont Didi savait déjà qu'elle aimait la peinture rose et les livres de poche. Restaient 2 pages sur Tika, 4 ans, abattu sur un tapis de chien, et 1 paragraphe sur Vivi, 5 mois, étouffée dans son berceau. Une vie si brève qu'elle ne remplissait même pas une page. Ils lurent en silence, burent des cafés, tournèrent les pages. Alex finit le premier et attendit que Didi termine. Lorsqu'elle posa le rapport de l'agent et reprit sa tasse, il se lança. « Aishi Rivers, pas de mandat, pas d'arrestation, ne figure ni dans le fichier des délinquants juvéniles ni dans celui des conducteurs, donc une vie pépère pour un ado. » 2 agents ont interrogé les voisins qui savent rien à rien sur personne. Marrant, ils ont déclaré la même chose sur la petite sœur. Heureusement, la conseillère d'orientation du lycée en savait plus, même s'il faut signaler qu'Aishi n'était pas souvent en cours. Absentéiste ? Il aura été là 103 jours pendant sa 2e année, soit environ 1 jour sur 2. Il l'avait inscrit à des cours d'été pour rattraper le temps perdu, mais il ne s'est jamais présenté. Le lycée l'a signalé, tika Didi. Il semblerait que le système scolaire ait laissé tomber Aishi à peu près en même temps qu'Aishi laissait tomber le système scolaire. D'après la conseillère d'orientation, il a été très tôt diagnostiqué comme présentant des troubles d'apprentissage multiples. Elle le décrit comme un garçon gentil, mais qui avait du mal à s'intégrer au groupe à cause de ses comportements obsessionnels compulsifs. Il faisait une fixette sur les cartes de crédit et demandait à tous ceux qu'il croisait quelles cartes ils avaient, quels étaient les numéros, recto, verso. Et il se lançait souvent dans une énumération de tous les types de cartes jamais inventées, y compris les black, platine, silver, gold. Usurpation d'identité ? Elle pensait à un syndrome d'Asperger, souvent accompagné de TOC. Aishi refusait de marcher sur des fissures par superstition. Et il ne pouvait pas entrer dans la cafétéria ou le gymnase parce qu'il était terrifié à l'idée que les poutres lui tombent dessus. Un gentil garçon avec ça. Alex brandit le rapport. Elle répète ça 10 fois. Un gentil garçon qui avait des difficultés à l'école et qui ne recevait pas chez lui le soutien dont il aurait eu besoin pour s'en sortir. L'opinion officielle de la conseillère d'orientation, elle ne voit pas Aishi en train de commettre un meurtre, mais reconnaît que ses conduites obsessionnelles auraient pu pousser quelqu'un d'autre à la violence. Intéressant. dit Didi. Brandissant son rapport, elle ajouta à ce cocktail « Rochelle LeBryant, 11 ans, devait entrer en cinquième le mois prochain. Ni arrestation ni mandat, ne figure pas non plus dans le fichier des mineurs ou des conducteurs. Si son grand frère était pressé de quitter l'école, la petite Rochelle était apparemment pressée d'y être. Sa prof de sixième indique qu'elle était d'une parfaite assiduité l'an dernier et qu'elle arrivait souvent une heure avant le début des cours. Elle s'installait discrètement dans le couloir pour lire, jusqu'à ce que sa prof la prenne en pitié et la laisse entrer dans la salle de classe. L'enseignante la décrit comme une élève calme, sérieuse et très brillante. Une enfant serviable et qui ne supportait pas de se tromper. Par chance, elle était suffisamment intelligente pour se tromper rarement. La prof s'extasie parce qu'elle lisait des livres facilement du niveau lycée. Rochelle ne parlait jamais de sa vie à la maison, mais sa garde-robe limitée, sa maigreur et son manque d'hygiène parlaient d'eux-mêmes. Sous le coup d'une inspiration, Madame Groves a mis des shampoings dans les toilettes et Rochelle a pris l'habitude de se laver les cheveux dans le lavabo tous les matins avant les cours. De temps en temps, Madame Groves laissait aussi quelques vêtements propres, mais Rochelle refusait de les prendre. Elle semblait avoir beaucoup d'amour-propre. Des tentatives similaires pour lui donner de la nourriture échouèrent aussi, même si la gamine acceptait les livres. Elle les rendait toujours, mais refuser le prêt d'un livre était au-dessus de ses forces. Didier reposa le rapport. Madame Groves n'imagine pas Rochelle faisant du mal à qui que ce soit. Mais elle n'avait rien de bon à dire sur les parents. Peu impliqués, peu intéressés, peu aimants, voilà quelques-uns de ses adjectifs préférés. À ses yeux, Rochelle s'élevait pour ainsi dire toute seule et ne s'en sortait pas trop mal l'un dans l'autre. « Fais chier, » dit Alex. « Tu l'as dit. » « Et les deux plus jeunes ?»« Pas encore scolarisés, ce qui nous laisse les dépositions des voisins. » Laisse-moi deviner, ils savent rien à rien sur personne. Comment tu le sais? Je pense que les voisins étaient les premiers clients d'Hermès et que la plupart sont furax de ne pas avoir trouvé cette remise dans le jardin avant nous. Exact. Et maintenant, ils sont tellement amers qu'ils ont du mal à coopérer avec les super flics qui, eux, l'ont trouvé. Tous des jaloux. La petite était couverte d'assez vilaines coupures, reprit doucement Alex. J'ai aussi vu des cicatrices. Sur les bras, les jambes, autour du visage. J'imagine que Phil va obtenir des infos des services de l'enfance. Didi n'aimait pas non plus penser à l'enfant de 4 ans. Il y avait quelque chose de trop pitoyable dans ce pauvre corps plein de cicatrices, recroquevillé sur un tapis de chien. Elle se pinça l'arête du nez comme si cela devait effacer l'image. « Tu tiens le choc ?» demanda Alex. « Toujours. » « Je ne demande pas ça pour te vexer. » Didi le regarda. « Je suis bonne dans mon métier. » C'était important pour elle qu'il le sache. J'avais remarqué. « Je n'ai pas besoin qu'un homme règle mes problèmes. Je n'ai pas besoin qu'un homme me sauve. » J'avais remarqué. Elle fit la grimace. « Je hais cette connerie de beeper. » Il sourit. « J'adore travailler à l'école de police. » « Tu ne vas pas y renoncer pour cette vie de paillette. » dit-elle en posant les mains sur leur pile de notes et de rapports. « Non. C'est sympa de faire un tour sur le terrain, mais pas besoin d'y vivre. Évidemment, ça me rend plus compréhensif devant l'emploi du temps délirant d'une collègue enquêtrice. »« Aucune régularité dans ce boulot, » reconnut Didi. « Les projets se font et se défont, certains dîners pourraient être préparés et, à notre grand regret, refroidir. »« À notre très grand regret, » confirma-t-elle. Je suis bon dans mon travail. J'avais remarqué. Je n'ai pas besoin qu'une femme me serve. Je n'ai pas besoin qu'une femme flatte mon égo. J'avais remarqué. Un temps. Elle le regarda plus sérieusement. Alors qu'est-ce que tu veux? Commençons par un dîner. Vraiment? Elle ne voulait pas avoir l'air déçue. Mais je suis ouvert à toute proposition, s'empressa-t-il d'ajouter. « Parce que j'ai vu cette pub. » Didi se rendit compte de ce qu'elle allait dire et s'interrompit, mortifiée. Alex souriait. Frisson de plaisir, fièvre du désir. Elle se pencha vers lui. « Je meurs d'envie de savoir, » ajouta-t-elle. Il se pencha vers elle. « Je meurs d'envie de me rendre utile. » Ils poussèrent un soupir, un grand soupir. Puis se redressèrent et se remirent au travail. « Bon, reprit Didi en s'éclaircissant la voix et en s'obligeant à avoir l'air sur le coup. Où on en était? On a un trafiquant de drogue, une mère assistée, un ado absentéiste, une pré-ado brillante et deux inconnus. Une vie sur le fil du rasoir, une mère isolée avec ses enfants. Quelles sont les chances qu'Hermès ait trop fumé, qu'il ait essayé un nouveau produit et fait un carton sur sa famille? Le couteau ne me plaît pas, fit remarquer Alex. S'il commence avec le couteau, il devrait finir avec le couteau. Peut-être que c'est sur un coup de tête qu'il a poignardé Audi. Il se dispute dans la cuisine, il va trop loin. Aïchi voit ça, il s'enfuit et Hermès comprend qu'il a intérêt à limiter les dégâts d'Ardar. Il dégaine et fait un massacre. Ensuite, quand il se rend compte de ce qu'il a fait, il décide d'en finir une fois pour toutes. Il étouffe son propre bébé, se couche sur le canapé et se brûle la cervelle.
Tout faux.
Didier et Alex relevèrent brusquement la tête. Neil était sur le pas de la porte, si radieux que ses taches de rousseur rayonnaient sur son visage pâle. « J'ai du nouveau tout frais de chez le légiste », annonça-t-il. Hermès n'a pas pris une balle. Enfin, si, d'accord, il a pris une balle. Mais ça ne compte pas parce qu'à ce moment-là, il était déjà mort. Le coup du canapé, c'est une mise en scène. Il y avait des moments où Didi n'aimait pas son travail. Le stress d'enchaîner les heures sans pause. La corvée d'éplucher des rapports d'enquête, son foutu beeper qui sonnait pile quand il ne fallait pas. Mais ce moment n'était pas un de ceux-là. Alex, Neil et elle s'étaient approprié la salle de réunion pour pouvoir s'étaler, et Neil marchait de long en large devant la table en parlant à toute vitesse. Hermès la raquette a reçu des tirs de taser en pleine poitrine. Deux décharges d'après le légiste, vu les deux séries de brûlures. La plupart des gens seraient allés au tapis, mais s'en seraient remis. En revanche, comme le style de vie de la raquette n'était pas franchement bon pour le cœur, lui ne s'en est jamais relevé. « Le taser l'a tué ?» demanda Didi. Le taser a provoqué une crise cardiaque qui l'a laissé raide mort. Didi se tenait devant le tableau blanc, marqueur à la main. Neil ayant confirmé la cause du décès, elle nota ce nouvel élément. « Une seconde. Si on a employé un taser pendant l'agression, où est le confetti ?» Les tasers, armes interdites dans le Massachusetts, sont censés éjecter un confetti d'identification à chaque tir. On peut ensuite se servir du numéro de série inscrit sur le confetti pour retrouver le taser. Ceci pour compenser le fait que l'arme ne laisse pas de balles dont la police pourrait chercher l'origine. La question du confetti était un gigantesque et voltigeant merdier, pratiquement impossible à résoudre, surtout vu l'état de la maison de la raquette. « Je ne sais pas, » répondit Neil. Mais le légiste est convaincu que c'était un taser. Les marques ne lui laissent aucun doute. Didier fit la grimace, décida qu'elle reviendrait sur cette question. Ok, ça nous fait donc quatre moyens d'agression. Taser, pistolet, couteau, oreiller. Quoi d'autre chez le légiste? Décès par arme blanche pour la femme, aucun doute. Un seul coup mortel. Aucune trace d'hésitation, indiqua Neil sans cesser de faire les 100 pas. Comme chez les Harrington, remarqua Didier. « Même taille de lame, » précisa Neil. Autrement dit, dans les deux maisons, il y avait un jeu de couteaux et lors des deux agressions, l'assassin a choisi la même taille de lame. « La plus large, » fit remarquer Alex avec prudence. Ce qui, quand on réfléchit, est le choix le plus logique pour un meurtre. « Exact, exact. » Neil était songeur. Il s'arrêta sur ses pas le temps de mettre ses mains dans ses poches et de secouer sa petite monnaie. Est-ce que le légiste pourrait examiner le corps de Patrick Harrington ? Demanda Didi. Pour voir s'il a aussi reçu des tirs de taser. La demande est déjà faite. Et ? Donne-lui 2 jours. Entre les scènes de crime et les hécatombes habituelles en ville, les cadavres s'entassent. Le mois d'août, marmonna Didi. Ça ne chôme jamais à cette période. Et les enfants ? Le fils a été tué par balle. Oui. Pareil pour les filles de 4 et 11 ans. On va avoir plus de mal avec le nourrisson. C'est plus compliqué de porter un jugement définitif sur une asphyxie. Disons que l'enfant ne présente aucun autre problème physique apparent, donc c'était sans doute une suffocation. Le légiste a envoyé l'oreiller pour recherche d'empreintes génétiques. Possible qu'on puisse identifier la salive du bébé sur l'oreiller, et là, ça serait un peu plus concluant. « Combien de temps ?» demanda Didi en se préparant au pire. « 3 à 6 mois. Oh, putain. Arrête, tu m'excites. » Didi fit les gros yeux à Neil. D'accord, le rouquin efflanqué cherchait à donner le change sur ses orientations sexuelles, mais cela ne rendait aucun service à Didi. En revanche, Alex devrait surveiller ses arrières. Bon, qu'est-ce que ça nous dit ? S'interrogea-t-elle, surfant sur la même vague d'adrénaline que Neil. Elle examina son tableau blanc, puis joua du marqueur. Et d'une, ça sort Hermès de la colonne des assassins pour le mettre sans erreur possible dans la catégorie des victimes. Le type n'a quand même pas pu se suicider au taser et ensuite se suicider par balle. Guet-apens ? Suggéra Alex. Elle le regarda, approuva. C'est ce que je pense. Estourbir Hermès ? Le mettre hors de combat et ensuite s'attaquer au reste de sa famille ? Continua Alex. Pourquoi il faudrait que ce soit Hermès en premier ? Objecta Neil. On ne pourrait pas s'imaginer que quelqu'un ait agressé la famille et qu'Hermès se soit pointé à ce moment-là ? Si Hermès se pointe, pourquoi le taser ? Souligna Alex. Quand quelqu'un se pointe au milieu d'une fusillade, le meurtrier tire un coup de plus. Il ne pose pas le pistolet pour chercher une nouvelle arme dans ses poches. Exact. Je crois qu'Hermès a été le premier, convint Didi. Le meurtrier a neutralisé la menace la plus évidente, le père, en le choquant à plusieurs reprises. Pas franchement infaillible comme méthode, expliqua Alex. Surtout avec un toxico sévère. J'ai vu des mecs choqués une demi-douzaine de fois qui gueulaient toujours comme des putois. Didi se mordit la lèvre inférieure, étudia la question. Étant donné que les tasers sont interdits dans cet état, peut-être que notre meurtrier a un taser vraiment, vraiment interdit. Autrement dit, tant qu'à acheter un taser sur le marché noir, il en a pris un surpuissant. Pour l'armée, et ainsi de suite. Peut-être avec des cartouches spéciales, ce qui expliquerait pourquoi il n'a laissé aucun confetti. Avec 150 dollars, on se procure à peu près n'importe quoi sur le marché noir. Pourquoi pas un taser surpuissant avec lequel on sera assuré de neutraliser son problème en silence et sans laisser de traces. Plus elle y pensait, plus cette idée lui plaisait. Cette puissance plus importante expliquerait aussi la crise cardiaque d'Hermès, continua-t-elle. Il n'a pas simplement pris un coup de taser, il a carrément été électrocuté. Elle jeta un œil vers Neil. Y aurait moyen que le légiste estime l'intensité de la décharge en examinant les brûlures sur le torse d'Hermès ? Aucune idée, mais je peux poser la question. Très bien. Reprenons où on en était. Nous savons qu'un taser a été utilisé et qu'il était suffisamment puissant pour tuer au moins un homme. Nous dirons donc que ça fait partie des plans du meurtrier. Mettre le personnage du père hors de combat avec un taser. Vient ensuite le deuxième adulte, la mère. Il la prend en embuscade avec un couteau dans la cuisine. Encore une arme silencieuse, peut-être par souci de rester discret aussi longtemps que possible. En revanche, une fois que quelqu'un l'a repéré, Aishi dans le couloir, dit Alex, c'est ça. Maintenant, le sujet doit agir vite. Aishi est en train de donner l'alerte. Il y a deux enfants qui pourraient se précipiter chez les voisins. Le sujet doit mettre le couvercle là-dessus ou tout pourrait partir en vrille. Donc, il attrape un pistolet. Pris à Hermès ? S'interrogea Didi. Pas déclaré, donc aucun moyen de savoir. Mais le sujet a un pistolet et il n'y va pas par quatre chemins. Il manque son premier tir sur Aishi, mais se rattrape avec le second. Ensuite, c'est la chambre des filles, boum boum, plus d'enfants. Et il prend le couloir vers le dernier membre de la famille. Didi acquiesça. D'accord, mais le dernier membre de la famille La Raquette est un bébé de 5 mois. Les nourrissons ne peuvent pas parler ni témoigner, pourquoi le tuer ? Neil et Alex se turent un instant, pensifs. Il faut qu'il tue le bébé, finit par dire Alex. Parce qu'il faut que ce soit toute la famille. C'est un scénario, vous vous souvenez ? La famille doit mourir et le père doit apparaître comme le coupable. Donc le bébé doit mourir. Ensuite, il faut mettre Hermès sur le canapé et l'installer dans la pose adéquate. C'est le plan du meurtrier. Ce dont il a besoin. Pas un règlement de compte, dit lentement Didi. Parce que dans ce cas, le tireur aurait voulu que ce soit porté à son crédit. Il aurait voulu que ça sache qu'il avait supprimé toute la famille de son rival, histoire de foutre les jetons aux autres dealers ou dans longue. Et puis il ne se serait pas embêté avec 4 armes différentes, trop compliquées. Il ne s'agit pas d'une vengeance. Il s'agit de quelque chose qui touche le meurtrier de manière plus profonde, plus intime. Il rejoue quelque chose, murmura Alex. Didi fila mou, mal à l'aise, sans trop savoir pourquoi. La mort d'Hermès a tout fichu par terre. En théorie, il devait perdre conscience, et ensuite, Une fois le reste de la famille supprimé, l'assassin aurait pu revenir, l'installer sur le canapé, lui mettre le pistolet dans la main et accomplir le dernier acte de l'histoire. Sauf qu'Hermès a eu une crise cardiaque, ce qui s'écartait du scénario et nous fournissait notre premier indice. Alex eut une idée soudaine. Hermès avait le pistolet sur lui. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il faut que l'arme vienne de l'intérieur de la maison. Ça fait partie du dispositif habituel. Et si on y réfléchit, ça colle. Chez les Harrington, le sujet se débarrasse de Patrick en premier. Disons pour le plaisir de parler qu'il l'assomme. Ensuite, il se faufile dans la cuisine, attrape un couteau et se livre à son carnage. Pour finir, la mise en scène. Il déplace Patrick, localise le pistolet, accomplit le dernier acte. Patrick a survécu, rappela Didi. Ah, c'est le risque qu'on court avec un 22. Mais l'arme était déclarée au nom de Patrick, tu te souviens ? Il ne possédait que ça, et je suis sûre que si on demande à son voisin Dexter, il confirmera que Patrick, très soucieux de sécurité, avait une arme à feu dans une maison avec 3 enfants. Je parie qu'il conservait le 22 dans un coffre-fort. L'assassin a donc dû attendre avant de pouvoir mettre la main dessus et de s'en servir. Hermès, en revanche, le portait sans doute coincé dans la ceinture de son jean, termina Didi. Une chance qu'il ne se soit pas explosé les roubignoles. Une chance qu'il ait mangé tellement de mauvaise graisse qu'il ait eu une crise cardiaque. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver un lien entre les Harrington et la famille Larraquette-Solis, conclut Didi, et à comprendre pourquoi quelqu'un s'amuse à assassiner des familles entières. Ensuite, on le coince. De préférence à temps pour le journal de début de soirée. Des idées ? Elle regarda Alex, qui regarda Neil, qui la regarda. Les traces matérielles ? Finit par dire ce dernier en désespoir de cause. Cheveux, fibres, empreintes qui permettraient de rapprocher les 2 scènes de crime ? Examiner les PV de stationnement ? Suggéra Alex. Le sujet a dû faire des allers-retours et il faut reconnaître que c'est l'enfer de trouver à se garer en ville, surtout l'été. Les empreintes de pas devant les fenêtres ? Reprit Neil de plus en plus en train. Le sujet a sans doute commencé par reconnaître les lieux. Autour d'Alex. Réinterroger les voisins. Pour réussir un coup aussi complexe, l'assassin avait forcément fait des repérages. Quelqu'un aurait-il remarqué une voiture qui faisait plusieurs fois le tour du pâté de maison ? Ou un nouveau visage ? Un type qui se serait mis à effectuer des promenades matinales avant de disparaître ? Fallait bien qu'il prenne ses renseignements d'une façon ou d'une autre. Didi rédigea la liste, en ajoutant elle-même 2 points. La balistique, au cas où les marques retrouvées sur les balles des 2 scènes présenteraient une quelconque similitude, et le rapport du légiste sur Patrick Harrington. S'il avait des brûlures de taser sur la poitrine, les scènes étaient liées. Aucun doute dans son esprit. « Neil, dit-elle en martelant la dernière ligne, recontacte le légiste pour nous, tu veux ? 2 jours avant que Ben réexamine Patrick, c'est trop long. Il nous faut son rapport demain matin, dernier carat, ne serait-ce qu'un premier avis. Mais c'est important, ça, très important. » Neil approuva, et on frappa à la porte. Phil passa une tête. « Je vous ai manqué ?» demanda le 3e membre de l'équipe. « Je vous ai cherché dans tout l'immeuble. Pourquoi la salle de réunion ?»« On est plus au large, » expliqua Didi. « Neil nous a ramené une découverte de chez le légiste. » Il s'avère qu'Hermès Larraquette a en fait été tué par un taser et que le coup du suicide sur canapé n'était qu'une mise en scène. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le lien entre les scènes de crime pour prouver que nous cherchons un seul et même prédateur qui aime rejouer des tueries familiales. Pourquoi, qu'est-ce que tu as fait ton après-midi ? Dis-moi que tu m'aimes. Plus qu'un cheeseburger à point, tu veux dire ? Carrément plus. J'ai trouvé le lien entre les Harrington et les Larraquette-Solis. Vous vous souvenez, la gamine de 4 ans qui avait des coupures sur tout le corps chez les Larraquette ? Didi fit signe que oui, ça ne s'oubliait pas facilement. Les services de l'enfance ont été alertés. La fille a été placée provisoirement et devinez quoi, ce n'était pas papa et maman qui lui infligeaient ses sévices. Elle se faisait ça toute seule. Une forme d'automutilation d'ordre compulsif, dépressif, anxieux, j'en passe. Bref, elle ne pouvait pas s'empêcher de se taillader la peau. Avec tout et n'importe quoi. Depuis des brindilles acérées jusqu'à des trombones en passant par des anneaux de canettes de coca. Et puis il y a 9 mois... Tika a mis la main sur un rasoir jetable et s'est entaillé le cou. Le temps que maman s'en aperçoive, elle était en sang. Maman l'a emmenée aux urgences, où on a diagnostiqué qu'elle représentait une menace imminente pour elle-même. Et Phil marqua un temps, attendit le roulement de tambour. Didi comprit en même temps qu'il le disait à voix haute. Et la petite Tika a été admise à l'unité pédiatrique d'évaluation clinique de Boston, autrement dit l'ancienne résidence secondaire d'Odzie Harrington.